Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons ensemble dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, des paroles du Seigneur Jésus s'adressant à ses disciples. Nous lisons au chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu, les versets 28 à 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut causer la perdition et de l'âme et du corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un as, un sou, dirions-nous? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Prions ensemble. Seigneur, Père, nous te rendons grâce pour ta parole, parole de vérité, parole de vie. Veuille nous ouvrir le cœur pour que nous la recevions, pour que nous recevions de toi la bénédiction dont chacun de nous a besoin. Tu veux nous l'accorder. Veuille conduire le reste de ce moment de méditation. Nous nous confions en toi au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Albert Camus, le grand penseur et écrivain qui était né à Alger et qui a reçu le prix Nobel de littérature, a dit, paraît-il, je l'ai lu, « Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques. » Et en effet, rappelez-vous, Descartes, Pascal, Leibniz, tous des génies qui ont fait dans ce champ du savoir des découvertes capitales. Le XVIIIe siècle, continuait Camus, a été le siècle de la physique. Il est dominé par la figure de Newton, qui a communiqué à ses contemporains une vision toute nouvelle du monde. Le XVIIIe siècle a été le siècle de la biologie. On peut penser à Darwin, à Pasteur et à d'autres. Et il continuait en disant, il parlait au XXe siècle, le XXe siècle est le siècle de la peur. Évidemment, c'était une astuce d'orateur. Il changeait tout à coup de catégorie pour attirer l'attention sur ce thème qui ressortait ainsi avec beaucoup de force, la peur. Oui, le XXe siècle a été un siècle de peur. Avec ces deux guerres mondiales, ces dizaines de millions de morts, avec la crise économique des années 30, avec la grippe espagnole il y a un siècle, et cela c'est pour la première partie du siècle, mais la deuxième n'a pas été tellement en reste, avec les massacres commis par les Khmers rouges, avec les massacres, le génocide du Rwanda, avec le sida. Le XXIe siècle ne nous a pas fait assister à des pertes humaines aussi nombreuses. Il faut le noter. La proportion est peut-être de 1 à 10 et peut-être même de 1 à 100. Mais le climat n'est sans doute pas davantage exempt des peurs que celui du XXe siècle. Le siècle a commencé, vous le savez, par cet attentat inimaginable contre le World Trade Center à New York avec ses tours jumelles. Et il a continué par des peurs de toutes sortes. La peur qui concerne le climat au sens littéral du terme, le réchauffement climatique, le changement climatique, et puis le terrorisme. Le terrorisme fait de la peur, comme le nom l'indique, l'arme qu'il veut manier pour changer les régimes politiques établis. Et puis il y a maintenant l'épidémie que cause le virus qui était inconnu encore il y a pratiquement un an et qui a déjà fait quand même dans le monde entier 1 million de morts. La peur est très très présente alentour et s'y rajoute encore à la peur du virus, la peur de la crise économique qu'il cause et de la crise sociopolitique qu'il risque bien d'engendrer. Donc, autour de nous, la peur est présente. Et Jésus, le Seigneur, le Messie, Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». Voilà le message qu'il adresse à ses disciples au chapitre 10, selon Matthieu. Alors, il parle plus précisément dans le contexte de la peur des persécuteurs, des persécutions. Et cela en situation de témoignage. Dans les versets qui précèdent et dans les versets qui suivent, il s'agit d'encourager à parler de Jésus, à confesser son nom, à dire la vérité qu'il a proclamée, à la redire, à la communiquer. Mais je crois que j'ai le droit d'étendre à toutes les sortes de peurs la parole que Jésus a prononcée, « N'ayez pas peur ». Elle revient souvent dans des contextes différents dans toute la Bible et en particulier dans les évangiles. Et comme nous entrons dans le temps de l'Avent, la chose a déjà été rappelée, je peux souligner que la parole « N'ayez pas peur » est caractéristique des apparitions de ce temps de l'Avent. Au moment de la nativité, nous avons cette formule « N'ayez pas peur » qui revient très, très souvent. Et dans l'Évangile selon Matthieu, on la trouve dès le premier chapitre, dite à Joseph, l'époux de Marie, la mère de Jésus. Donc nous avons, dans ce temps de l'Avent, comme un surcroît de pertinence pour la méditation que nous voulons faire de la parole de Jésus, « N'ayez pas peur ». Et Jésus appuie cette exhortation apaisante sur quatre vérités. Quatre vérités dans ces quatre versets, mais pas une vérité par verset. Nous allons les repérer. Nous allons en quelque sorte dire à la peur ces quatre vérités. Les quatre vérités qui lui sont contraires, qui nous permettent de lui résister, qui nous permettent de la repousser, de la surmonter, de la vaincre, d'en triompher, car nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus qui nous a aimés. Alors ces vérités, elles valent pour calmer et expulser toutes les sortes de peurs, car il y en a plusieurs. Il y a la terreur qui soudain paralyse. Il y a la panique, il y a aussi l'inquiétude sourde et dépressive qui gagne pas mal de gens autour de nous. Il y a l'angoisse qui est souvent très très diffuse sans un repère très très précis. La parole de Jésus et les quatre vérités qu'il nous enseigne valent contre toutes ces formes de la peur. Alors la première de ces vérités, c'est la différence de l'âme. Jésus dit « N'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent atteindre que le corps, mais ne peuvent rien contre l'âme qui est l'essentiel de vous-même. » Jésus le dit des persécuteurs, ils ne peuvent que tuer le corps. Mais cela est valable aussi du virus, cela est valable aussi des incendies, des tsunamis. De toute façon, ce n'est que le corps qui peut être atteint. Or, contrairement à ce que on lit parfois, qu'on entend, malgré des réfutations tout à fait suffisantes, scientifiques, sur la base biblique, l'Écriture sainte affirme la dualité constitutive de l'être humain. Il n'est pas seulement un corps, il est aussi âme, il est âme ou esprit et corps. Cela est déjà enseigné de manière imagée par le récit de la création au chapitre 2 de la Genèse. Nous voyons le Seigneur Dieu qui pétrit comme un potier le corps de l'homme, et puis qui ensuite, deuxième opération, lui insuffle l'esprit qui lui permet de devenir un être vivant. Alors, à coup sûr, cette dualité qui nous constitue et qui acquiert une unité dans l'unité de la personne, elle est indémêlable, indissociable dans cette vie. Nous ne pouvons guère attribuer quelque chose de très précis à notre corps qui ne touche pas notre esprit et à notre âme qui ne touche pas notre corps. C'est sûr, la dissociation, c'est la mort. Mais il reste que ces deux sont distincts dans leur union et que le chrétien, d'ailleurs, l'éprouve dans son expérience intime. L'apôtre Paul nous dit, dans la seconde épître qu'il adresse aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16, que l'homme extérieur, il se détruit au fil des jours. Et quand on est vieux comme moi, on en sait quelque chose. L'homme extérieur, il se détruit, alors que l'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour, lorsqu'il est dans la communion du Seigneur lui-même. L'âme, c'est la personne, et elle continue d'exister après la séparation d'avec le corps. Nous sommes incapables d'imaginer comment, mais c'est l'affirmation que l'Écriture nous enseigne de manière tout à fait certaine. Dans le livre de l'Apocalypse, le voyant Jean, à des visions célestes, c'est dans le ciel qu'il lui est donné de voir ce qui se passe, et deux fois il dit « je vis les âmes de ceux qui avaient été mis à mort sur la terre ». Ça, c'est la première vérité qui doit nous permettre de résister à la peur. La deuxième, c'est celle de la crainte qui doit avoir priorité. Craignez plutôt, dit Jésus, celui qui a le pouvoir de la condamnation, de la perdition. À coup sûr, c'est Dieu qui est en cause. Jamais dans la Bible, il ne nous est dit de craindre le diable. Nous n'avons pas à le craindre, nous avons à lui résister. Il fuira loin de nous, souligne l'épître de Jacques. Ce n'est pas le diable qui décide. Le diable nous tente et produit des effets très négatifs, mais ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide, c'est Dieu. Et c'est lui dont Jésus nous dit qu'il est plutôt à craindre. Dans quel sens est-ce là une vérité qui nous permet de résister à notre peur? Dans un sens, une peur chasse l'autre. On le sait même parmi les peurs ordinaires de la vie, une peur chasse l'autre assez facilement. Mais il s'agit surtout de reconnaître ce qui est la réalité décisive, déterminante. Quelle est la réalité qui doit importer à partir de laquelle il est raisonnable d'avoir peur ou déraisonnable d'avoir peur? La réalité qui compte, c'est celle de Dieu. C'est notre relation à lui qui décide de notre éternité et qui décide du sort qui nous attend. Aujourd'hui, il est très peu à la mode, très peu agréable aux oreilles de nos contemporains, de rappeler la vérité de ce que le texte appelle la géhenne. C'était le mot qu'employaient les Juifs de l'époque de Jésus pour désigner le châtiment éternel, le feu qui ne s'éteint pas, que Jean-Baptiste avait évoqué dans le texte qui a été lu tout à l'heure. La géhenne, c'est le châtiment de ceux qui ont tourné le dos à Dieu toute leur vie sur la terre et qui se retrouvent avec le poids de leur faute qui est toujours sur eux lorsque le juste juge doit se prononcer et prononcer ce qu'il en sera d'eux. C'est une vérité biblique que je n'ai pas le droit de cacher. Elle est dure, mais elle doit déterminer les choix des priorités dans notre vie. Cette vérité solennelle, il faut que chacun la voit bien en face et se détermine selon ce qu'il aura reconnu de réalité. Je suis en quelque sorte dégoûté, dégoûté, parce qu'on entend couramment sur les ondes quand quelqu'un, quand une personnalité importante et populaire en particulier décède. Des gens qui se moquent de la Bible, des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, qui le disent. Ah, ils nous parlent de celui qui est mort en disant « Ah, il nous regarde de là-haut !» Quelle superficialité, quelle irresponsabilité. Non, ce qui est responsable, c'est de faire face à la réalité du Dieu vivant qui est plus réel que toutes les réalités de notre monde. C'est cela, craindre le Seigneur. Alors, comme ce n'est pas une peur comme les peurs qui nous paralysent, mais que c'est au contraire la seule attitude sage devant la réalité qui compte, beaucoup de nos traductions récentes préfèrent employer le mot de respect à propos de cette crainte de Dieu. Mais quand on traduit le respect, on risque quand même de manquer une composante de sens. Et le rapport, en quelque sorte, paradoxal entre la peur qu'il faut chasser et la peur dont il faut tenir compte pour se décider comme il faut. Il y a un jeu, en quelque sorte, là, qui est assez paradoxal et qu'on trouve déjà dans le récit du don de la loi au Sinaï, au chapitre 20 du livre de l'Exode, au moment de donner sa loi pour impressionner, déployer le registre le plus fracassant, des tonnerres, du feu partout, la montagne était embrasée, c'est une éruption volcanique peut-être. Et Moïse dit au peuple, chapitre 20, verset 20 de l'Exode, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous inspirer sa crainte que Dieu a fait tout cela. » Et c'est le même mot, peur ou crainte, là. Dans l'original, les deux fois, c'est le même mot. Donc, il est juste que nous tremblions devant la grandeur de Dieu et devant les enjeux de son jugement. Une grande figure du judaïsme français, Pierre Vidal-Naquet, raconte dans son livre « Réflexions sur le génocide » un souvenir d'enfance. Ça lui restait. Enfant, juif, il a été recueilli, caché, sauvé par une famille protestante pendant la guerre. Et il cite un cantique qui lui est resté, qu'on chantait dans cette famille protestante. Et en fait, je me rappelle en effet qu'on le chantait quand j'étais jeune aussi. Le mal est là, et Satan gronde. Dites, amis, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Alors, c'est une proclamation très audacieuse de notre assurance de la foi. Nous nous sentons faibles quand même, hein? Mais c'est en quelque sorte la vocation à laquelle la parole du Seigneur Jésus nous adresse, et c'est la vocation qui doit nous entraîner. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur, parce que c'est lui qui compte. Et ce Seigneur, troisième vérité que Jésus met très clairement en valeur, il a une maîtrise totale des choses. Pas un moineau dont on considère que ça ne vaut presque rien, pas un moineau ne tombe à terre indépendamment de Dieu. Tous les événements qui se produisent sont sous son souverain contrôle. C'est une doctrine constante de l'Écriture qu'on trouve en bien des endroits. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et nous avons comme illustration de ce « toutes choses » un accident. Dans le chapitre 21 de l'Exode, au verset 13, il y a un élément de la législation que Moïse a mise au point sous l'inspiration de Dieu, qui évoque le cas d'un homicide involontaire, par accident. Deux hommes sont en train de travailler, le marteau échappe des mains de l'un, il frappe l'autre. Et le texte dit, et si le Seigneur l'a fait tomber sous tes coups, alors que tu n'avais aucune intention de lui faire mal. Voyez, homicide involontaire. Mais le Seigneur contrôle tout, c'est vraiment ce qui est l'enseignement constant de l'Écriture et qui doit nous permettre de nous reposer en lui quand les peurs nous assaillent. Alors je sais bien qu'il y a des objections que beaucoup adressent, que de nouveau la conception de la liberté humaine qu'ont beaucoup de nos compatriotes s'oppose à cette affirmation biblique. Mais nous sommes libres. Oui, mais d'une liberté de créature. Dieu nous fait libres en lui, autrement c'est le vide, c'est rien. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est en lui que nous sommes libres. Il est capable, lui et lui seul, de susciter en nous une authentique liberté. Et le mal alors ? Le mal, ça c'est un mystère que j'ai pris l'habitude d'appeler le mystère opaque. J'ai essayé de montrer dans un livre que j'ai écrit autrefois qu'il n'y a pas de solution rationnelle, que c'est un mystère que nous ne pouvons pas percer. Le mystère de la liberté, il est beau, il est bon, il nous constitue, mais le mystère du mal, permis par Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est ce qui fait que le mal est mal, parce que si nous comprenions, cela veut dire que nous réussirions à le réconcilier avec le reste. C'est le statut même du mal qui veut que nous ne puissions pas comprendre pourquoi le Dieu souverain en a la maîtrise totale, alors que le mal, c'est ce qui est dirigé contre lui, au bout du compte. Pourquoi le Dieu souverain le permet ? Mais nous recevons cet enseignement qui est celui de Jésus-Christ et de toute la Bible. Et quatrième vérité, alors, ce Dieu souverain qui tient tout entre ses mains est notre Père. Indépendamment de votre Père, dit Jésus. Et nous valons cher à ses yeux, beaucoup plus que des milliards de moineaux. Quel est le prix que le Seigneur nous donne dans sa bonté, dans son amour, parce que ce n'est pas en nous-mêmes, c'est parce qu'il nous aime que nous lui sommes tellement chers, que nous valons si cher à ses yeux. Quel est le prix ? Le prix, il l'a payé pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus, le bien-aimé, celui en qui toutes ses complaisances se trouvent. Il a donné Jésus en rançon pour nous libérer de notre péché et des conséquences ruineuses de notre péché, de la gêne. Il a donné Jésus. Voilà le prix infini que Dieu a payé pour nous montrer à quel point il nous chérit. Voilà qui doit nous rassurer profondément. Il est notre Père, en un sens qui ne vaut pas pour les moineaux. On peut parler de Dieu comme Père au sens de Créateur. Alors là, il est aussi le Père des moineaux. Et il s'en occupe d'ailleurs, des moineaux. Et cela nous est dit. Mais il est notre Père, le Père des disciples de Jésus, dans un sens redoublé, parce qu'il nous a donné son Esprit qui nous permet de nous adresser à lui. Abba, Père. Il est notre Père parce qu'il nous fait frères de Jésus. Jésus, lui, est le Fils éternel. Et nous sommes des fils adoptifs en Jésus, comme ses frères et sœurs qui lui sont associés et qui lui sont rendus progressivement semblables. Dieu est notre Père. Nous avons de la valeur à ses yeux. Alors, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné dans la première création. Il faut la démarche de confiance à laquelle il nous appelle, de livraison en quelque sorte de toute notre vie, de toute notre personne, à lui, à sa bonté. Mais quand nous avons fait ce pas décisif, et si quelqu'un parmi ceux qui écoutent ne l'a pas fait, je l'invite à ne pas tarder à le faire. Dieu est notre Père par la foi que nous mettons en sa promesse, en sa parole, en sa bonté, en son amour. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de tout ce qui peut arriver dans ce monde. Reconnaissons la priorité absolue de la relation à Dieu. Reconnaissant que nous pouvons nous confier en lui, parce que, comme il l'a montré en Jésus, il nous aime, il nous chérit, il nous entoure d'une vigilance et d'une tendresse à la fois, et d'une fidélité qui sont parfaites. Confions-lui notre vie, et toujours, tout à nouveau, chaque jour, et nous triompherons des peurs qui mine tant d'êtres humains autour de nous. Amen.